Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, coup de projecteur sur la migration avec François Crépeau, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants. Bonne écoute.
Toute la nuit, les gardes-côtes ont déchargé les corps sur les quais de Lampedusa.
Chaque minute compte pour essayer de sauver ces naufragés qui ont déjà passé plus de 5 heures en mer.
Les corps de migrants noyés.
Alors que fin septembre, les sauveteurs italiens s'affairaient à récupérer les corps de plus de 300 migrants qui ont perdu la vie suite au naufrage au large de l'île de Lampedusa, l'ONU a tenu le deuxième dialogue de haut niveau sur la migration sous le thème « Migration internationale et développement ». Dialogue qui avait pour objectif de chercher à renforcer les aspects positifs de la migration internationale pour les migrants, pour les pays et pour le développement. L'occasion pour François Crépeau, rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, de plaider pour une approche sur l'immigration centrée sur les droits de l'homme. Et pour la radio des Nations Unies, de lui tendre le micro en lui demandant tout d'abord comment éviter que de terribles drames comme le naufrage au large de Lampedusa ne se reproduisent.
La réponse à cette question ouvre tout un tas de sous-questions. Ce drame survient pour des raisons multiples. Une d'entre elles, et on peut décrire la situation généralement comme ça, la migration irrégulière existe parce qu'il y a des raisons qui poussent les migrants à quitter leur pays, c'est-à-dire la pauvreté et la violence, parce qu'il y a des marchés du travail qui leur sont ouverts dans les pays d'accueil, marchés qui sont des marchés réguliers, ou marché souterrain dans lequel les migrants en situation irrégulière sont employés par des employeurs, souvent en étant d'ailleurs exploités, et parce qu'il y a aussi, entre ces besoins d'émigrer et ces besoins d'immigration qu'on ne veut pas reconnaître, il y a une barrière qu'on a instituée et des mesures répressives de l'immigration irrégulière. C'est à ce moment-là que des drames comme celui de Lampedusa surviennent. La migration est un phénomène naturel de l'humanité. Ça s'est toujours produit, nous avons conquis la planète de cette manière-là, et ça continuera de se produire. On peut essayer de la limiter à tel moment, à tel endroit, mais comme de l'eau, les migrants trouveront un passage ailleurs. Parce que c'est ce que l'être humain fait naturellement. Des gens importants ont dit que la migration était la meilleure politique pour combattre la pauvreté. Et individuellement, chacun d'entre nous, qui sommes d'ailleurs tous descendants de migrants, ou migrants nous-mêmes, ferions la même chose si nous étions dans les souliers de ces migrants. On peut travailler sur les trois aspects de cette migration. On peut travailler sur la réduction de la violence, la réduction des conflits dans les pays d'origine. On peut travailler sur la réduction de la misère, la création d'une base économique dans ces pays-là. Ce sont les politiques de développement qui n'ont pas souvent bien marché dans les 50 dernières années. On peut travailler sur les facteurs d'attraction. Alors, par exemple, on pourrait, d'une part, reconnaître que nous avons besoin, nous, pays d'immigration, nous avons des besoins non reconnus de migration. On refuse de reconnaître que nous avons besoin, par exemple, de migration peu qualifiée. On accepte les très qualifiés, les diplômés, les ingénieurs, les médecins, mais on a beaucoup de mal à accepter les gens qui sont peu qualifiés. Or, nous avons des besoins de migration peu qualifiés et nous ne voulons pas le reconnaître pour toutes sortes de raisons qui tiennent, entre autres, à des questions électorales. De la même manière, nous avons des marchés du travail clandestins, du marché noir, où des migrants sont employés et nous ne faisons presque rien pour réprimer l'exploitation de ces migrants par les employeurs. En Europe, il y a une assez bonne directive sur les sanctions contre les employeurs qui n'est à peu près pas appliquée. Et comme c'est un marché de l'emploi et qu'il a besoin d'être nourri par de nouvelles arrivées constamment, eh bien ça attire encore d'autres migrants clandestins qui vont se faire exploiter. Troisième élément sur lequel on peut travailler, c'est la barrière entre les deux. Est-ce que nous avons vraiment besoin de stopper les bateaux en haute mer? Est-ce que nous avons vraiment besoin de poser des gestes dont nous savons que la conséquence sera que des gens mourront en mer ou mourront dans les déserts ou mourront dans les régions montagneuses? Et là, je pense que tous les États doivent se poser la question de leur part de responsabilité dans des morts comme celle de Lampedusa la nuit dernière.
Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien. Sauf que chez moi, sauf que chez moi, y a rien.
Vous parlez donc de décriminalisation des migrants. Comment convaincre un État qui se sent menacé par l'immigration d'accepter justement cette décriminalisation ?
Alors on a une difficulté importante qui est que au plan de la politique locale, politique nationale, domestique, l'agenda sur la question des migrations a été défini dans beaucoup de pays depuis 20-25 ans par la droite dure ou l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que ces partis d'extrême droite jouent sur des peurs profondes de l'opinion publique, des peurs d'être déclassés économiquement, des peurs sur l'identité, etc. Et les partis politiques de droite ou de gauche, qui sont les partis majoritaires au centre, n'ont jamais réussi à produire un discours positif sur l'immigration, ou rarement réussi à produire un discours positif sur l'immigration, face à ce discours de peur qui est extrêmement efficace et rodé. Pourquoi ? Parce que les migrants ne votent pas. Les migrants sont insignifiants politiquement dans nos systèmes et les politiciens fonctionnent à l'incitatif électoral. C'est la structure même de nos démocraties électorales qui ne fonctionne pas pour les migrants. Ça a fonctionné pour beaucoup d'autres groupes. Les femmes, les ouvriers, les minorités, les autochtones, les gays et lesbiennes.
Mais ils ne sont pas considérés clandestins.
Non, mais ils se sont battus pour leurs droits. Les gays et lesbiennes ont longtemps été clandestins socialement. Et ils ont réussi à sortir du placard en se battant pour se faire reconnaître comme citoyens à part entière. Les migrants, ça n'arrivera pas. Pourtant, ils ont des droits. Ils ont tous les droits fondamentaux du citoyen, les mêmes droits fondamentaux sauf deux. Le droit de vote et d'être élu et le droit d'entrer et de rester sur le territoire. Tous les autres droits sont pour tout le monde et ils devraient être respectés pour tout le monde. Sauf que à partir du moment où les migrants ne participent pas au débat électoral, où le vote des migrants ne compte pas, il n'y a aucun incitatif à prendre leur part dans le débat politique. Pourtant, c'est une des solutions, à mon avis, fondamentales qu'il va falloir transformer dans les pays d'accueil de l'immigration, adopter un discours et des politiques sur lesquels on valorise la diversité culturelle, religieuse, ethnique, on valorise le multiculturalisme ou l'interculturalisme, qu'on valorise l'avenir de la société, de la collectivité, plutôt que de simplement célébrer son passé et l'unité perdue qui était la sienne au XIIe siècle. Et là, donc, il y a un travail à faire sur quels sont les discours publics qui vont décrisper l'opinion publique, de manière à ce qu'on puisse accepter plus facilement cette ouverture à la diversité.
Vous parlez de tenir un certain discours public, mais vous parlez aussi de donner une voix aux migrants. Mais comment est-ce qu'on peut donner une voix à un migrant qui est, par définition, clandestin et qui va avoir peur de prendre la parole à n'importe quel moment ?
Alors, moi, ce que je propose, parce que ça a marché à petite échelle depuis une vingtaine d'années, on le voit dans de nombreux pays d'accueil de l'immigration, il faut absolument faciliter l'accès des migrants à la justice, l'accès aux institutions nationales des droits de l'homme, l'accès à tout un tas d'autres intervenants sociaux qui les rencontrent tous les jours dans le cadre de leur milieu de travail, comme les inspecteurs du travail, les assistantes sociales, les syndicats qui vont aussi travailler avec des migrants sur les lieux de travail. Et il faut permettre à toutes ces voix d'être entendues. Actuellement, le discours sur la migration a été dominé depuis une vingtaine d'années par tout l'appareillage sécuritaire, les ministères, les Homeland Security, les ministères de l'Intérieur, Home Affairs, ministère de l'Immigration dans certains pays, mais c'était une conception sécuritaire de la migration. Les événements du 11 septembre n'ont pas aidé. Il faut arriver à faire en sorte que d'autres voix dans l'appareil gouvernemental et d'autres voix dans la société parlent aussi des migrants, pour montrer qu'il y a d'autres choses que les peurs que nous avons au sujet de notre sécurité, que ce soit une sécurité économique ou une sécurité nationale, qu'il y a d'autres aspects et que cette présence des migrants, migrants irréguliers ou migrants réguliers, ne soit pas considérée comme un mal nécessaire qu'il faut endurer, mais soit considérée quotidiennement comme un enrichissement social, comme une capacité d'innovation supplémentaire, comme des liens culturels, économiques, sociaux avec le reste du monde, comme des diasporas qui permettent de créer des courants économiques, culturels avec d'autres pays. Et ça, ce discours-là, il est long, compliqué à créer, mais la seule manière d'y arriver, c'est de donner du pouvoir aux migrants de parler pour eux-mêmes. Les seuls lieux où actuellement c'est possible, ce sont les tribunaux. tribunaux, institutions nationales des droits de l'homme, etc., qui n'ont pas de préoccupation électorale et qui vont pouvoir dire au gouvernement « Non, vous n'avez pas le droit de détenir cette personne parce qu'elle ne présente aucun danger et il n'y a aucune raison qu'elle ne se représente pas aux prochaines procédures qui seraient les siennes. Non, vous n'avez pas le droit de séparer cette famille. La famille a le droit d'être ensemble. Non, vous ne pouvez pas renvoyer cet enfant. Cet enfant a besoin de protection et la meilleure protection qu'on puisse leur apporter, selon le principe du meilleur intérêt de l'enfant, la protection qu'on peut lui apporter, c'est de le garder ici et de le garder dans un système de protection de l'enfance que nous avons établi pour tous les autres enfants du territoire. » Et ça, les tribunaux, les institutions nationales des droits de l'homme, les ombudspersons peuvent faire ça. Et ce type de message est très bien entendu par les autorités gouvernementales qui tout d'un coup n'ont plus à défendre politiquement leurs décisions. Ils peuvent dire « Ah ben écoutez, c'est les tribunaux qui nous ont dit de le faire ». Et c'est bien entendu aussi par l'opinion publique qui tout d'un coup entend un autre discours et un autre discours qui a une autorité, l'autorité du tribunal, l'autorité d'une institution nationale des droits de l'homme et qui se dit « Au fond, c'est vrai, ce migrant-là, en fait, mes voisins que je connais bien et que j'aime beaucoup, ils sont dans la même situation, pourquoi est-ce qu'on les détiendrait ? Moi, je ne voudrais pas qu'on les détienne. » Et tout d'un coup, le débat se décrispe, le débat peut s'ouvrir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une voix. Et la voix, pour l'instant, dans nos pays, ça passe par les institutions indépendantes du gouvernement qui sont capables de présenter une voix ou un discours différent. Les tribunaux, les cours de justice, mais aussi les inspecteurs du travail, les inspecteurs de santé, éventuellement les directeurs d'école, etc.
Vous êtes siège de l'ONU à New York dans le cadre du second dialogue de haut niveau sur l'immigration et le développement. Quel est votre message et qu'espérez-vous voir à l'issue de ce dialogue ?
Tout débat sur les questions migratoires doit avoir en son centre la question des droits de l'homme des migrants. On a des discussions ici aux Nations Unies, mais également dans les États, où les migrants sont très souvent absents. Les débats sur les politiques migratoires sont des débats dont les migrants sont les objets. Ce ne sont jamais les acteurs de ces débats. On parle toujours à propos des migrants. Il faut intégrer les migrants dans ce genre de débat. Il faut que des gens, des institutions, portent leur voix et fassent connaître ce qu'ils sont et qu'ils soient partis de ces décisions-là.
Vous prenez également un rôle renforcé pour l'ONU face aux migrants et aux migrations. Comment concevez-vous ce rôle ?
Dans l'ensemble, les États ont une grande réticence à parler publiquement des questions migratoires à cause de la sensibilité politique au plan domestique de tout débat migratoire. Il a fallu donc créer des mécanismes pour que des discussions et une coopération s'engagent. Mais les Nations Unies ont été singulièrement absentes comme institution du débat migratoire en général. L'Organisation internationale du travail a produit beaucoup de documentation sur les travailleurs migrants. Ça n'est pas le centre de son activité. UNICEF a une belle activité sur les enfants de migrants, mais c'est 3% ou 2% ou 1% de la population d'enfants dont elle s'occupe dans le monde. Ce n'est pas non plus une grande priorité pour l'UNICEF. Il n'y a pas au sein des Nations Unies une institution qui soit chargée des questions migratoires et qui ne parle d'une voix autorisée sur les questions migratoires. Le HCR s'occupe de réfugiés, pas de la migration générale. Alors, il existe une institution importante, qui est l'Organisation internationale pour les migrations, qui est en dehors des Nations Unies, qui a travaillé en étroite collaboration avec les États depuis 50 ans sur les questions migratoires. Mais la question des droits de l'homme n'est pas une question qui est au cœur des préoccupations. C'est vrai que l'OIM, depuis 10 ans, a fait énormément de progrès sur la question des droits de l'homme des migrants, mais l'OIM est moins tenue par l'ensemble des cadres normatifs que ne le seraient des entités de l'ONU. Or là, je pense qu'il y a un hiatus. Il me semble qu'à l'intérieur de l'ONU, il y a de nombreuses agences qui ont un travail fondamental pour venir au soutien des migrants, et il manque une institution qui aurait une voix autorisée au sein de l'ONU. Dans mon rapport, j'examine différentes possibilités institutionnelles pour qu'il y ait une voix autorisée des Nations Unies sur les questions migratoires, une voix forte. Et là, il faudrait que les États se mettent d'accord. On sent très bien la réticence actuelle de donner aux Nations Unies une voix forte en matière migratoire, mais il y a des avenues possibles.
Et c'est avec François Crépeau que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine aux droits de l'homme des migrants. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Rebecca Mudio et Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.